soir clôture la semaine dernière à Kinshasa du colloque sur la problématique des originaires et non originaires. Organisé par l'Université de Kinshasa et l'Université catholique du Congo, les participants à ce colloque ont réfléchi sur la manière de remédier à ce phénomène qui constitue selon eux un germe des conflits et un frein au développement dans les provinces de la RDC. Ils ont recommandé au gouvernement notamment d'achever le processus de la décentralisation et d'effectuer le recrutement dans l'administration et dans la territoriale sur base d'un concours. Quelle analyse faire de la tenue de ce colloque? Voilà le thème de dialogue entre Congolais de ce soir. Nous recevons comme invité professeur Elikia Mbokolo, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris en France. Il a pris part à ce colloque. Professeur Elikia Mbokolo, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Arsène Mouaka, professeur à l'université de Kinshasa et député national de l'opposition, il a aussi pris part à ce colloque. Bonsoir professeur Mouaka.
Bonsoir Alain.
Professeur Abbé Richard Mugaruka, analyste et professeur à l'université catholique du Congo. Monsieur l'abbé Mugaruka, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Il s'est tenu à Kinshasa du 11 au 13 juin dernier le colloque sur la problématique des originaires et non originaires en RDC, organisé par l'Université de Kinshasa et l'Université catholique du Congo. Ces assises de 3 jours ont réfléchi sur comment remédier à ce phénomène qui est germe des conflits et frein au développement dans toutes les provinces du pays. Innocent Olinga.
Les participants, à majorité des professeurs d'université, sont d'avis que si l'on utilise ces critères d'originaire ou des non-originaires pour définir l'ordre des priorités dans la distribution de tout avantage social, économique et politique, on s'engage dans une logique sociale suicidaire. Pour le professeur Thiello, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, s'attacher seulement à sa petite identité ethnique paraît ridicule.
Il est ridicule pour les citoyens d'un grand pays comme la République démocratique du Congo de chercher seulement à s'attacher à sa petite identité ethnique ou provinciale. Il est grand temps que nous attachions à ce qui unit, tel que la profession, la vision politique, la vision économique, et non à ce qui divise.
Dans la même logique, le professeur Elikia Mbokolo estime que la préférence pour l'originaire, mon frère, est une tendance très dangereuse.
On sait que les originaires de certaines régions ont pillé leur région d'origine. Il y a des gouverneurs qui ont saccagé des régions entières. Donc la préférence pour l'originaire, mon frère, est une tendance très, très dangereuse. Il faut plutôt pousser les gens vers la préférence pour un programme.
Avec ces colloques, les éminents professeurs veulent que cette dynamique d'exclusion ne s'enflamme pas lors des prochaines échéances électorales, provinciales et locales, au risque d'hypothéquer les processus même de la décentralisation.
Merci Innocent Olinga. Professeur Elikia Mbokolo, je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris en France. Vous avez pris part à ce colloque. Professeur, pour commencer, comment avez-vous accueilli l'organisation de ce grand forum?
Bon, disons que le mot originaire et non originaire, pour la plupart d'entre nous, faisait problème. Parce que quand on dit originaire et non originaire, on ne sait pas par rapport à quoi. Est-ce par rapport à la tribu, comme on dit ici, c'est un mot inexact? Est-ce par rapport à la province? Est-ce par rapport à la région grande dont on fait partie? Par exemple, on dit les originaires de l'Est, hein, ou les originaires du Sud. Donc cette question des origines est assez floue. Mais c'est vrai que dans le vocabulaire d'une partie de l'opinion congolaise, ça semble aller de soi, notamment lors des élections à l'échelle des provinces, quelquefois à l'échelle des îles, où les gens disent « nous les originaires de cette ville ou de cette province ». Donc ce que nous avons fait, ça a été de mettre en garde les uns et les autres. Il y avait là notamment des parlementaires, pas seulement Arsène Mouaka, mais quelques autres, pour leur dire « faites attention à ces mots qui sont extrêmement dangereux » parce que d'abord la Constitution nous reconnaît tous comme citoyens du Congo et non pas citoyens de telle province ou de tel territoire. Mais puisque la chose existe, eh bien, il faut essayer de faire avec, notamment éliminer certains préjugés qui frappent les gens. Hein, donc on dit que les gens de telle province ou de tel territoire ont telle qualité ou tel défaut, que certains sont travailleurs, d'autres sont paresseux. Et donc on a dit que tout ça, c'est des préjugés qui ne correspondent à rien. Il faut déjà les dégager et ensuite montrer ce que les gens sont effectivement et finalement mettre ensemble les critères pour vivre ensemble comme les citoyens d'un même pays.
Professeur, votre conférence était intitulée « Problématique des originaires et non originaires, parcours historique ». C'est un exercice très difficile que je vais vous demander, professeur, en très peu de mots. À quand remonte la question des originaires et non originaires en RDC ?
Bon, disons, une première chose qu'on peut dire, c'est que la population de la RDC, dans la très longue durée, disons jusqu'à la fin du 19e siècle à la colonisation, était une population très mobile. Les gens circulaient beaucoup sans qu'il y ait des restrictions et souvent les gens étaient adoptés dans des régions qui n'étaient pas leur propre région. Bon, ensuite, avec la colonisation, il y a une fixation des gens par rapport à des territoires avec des qualités et des défauts. Donc on va dire par exemple les Bangalas sont bons pour l'armée. Mais nous savons que les Bangalas n'existent pas. Il y a une langue, le Lingala, qui est parlée par toute une série de gens. Donc on dira que tels autres sont travailleurs, tels autres ont tendance à être les rebelles. Donc on a fixé les territoires, on a fixé les gens. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que notre constitution, commet des erreurs graves par rapport à cette question. Par exemple, on définit le Congolais de naissance comme appartenant à l'une des ethnies qui se sont fondues dans ce qu'est le Congo aujourd'hui. Donc on définit la citoyenneté congolaise par rapport à des ethnies, alors qu'il faut définir les Congolais par rapport à la nation congolaise. Donc à partir de là, vous comprenez que tous les drames que nous avons connus au Kasaï, au Katanga, dans d'autres régions, nous appellent à être beaucoup plus vigilants. Et aujourd'hui, avec la décentralisation, il y a des risques très sérieux pour que des violences ou de la diffamation, des exclusions, de la discrimination se fassent contre les ressortissants de telle ou telle ethnie ou de telle ou telle région, parce que dans une province donnée, ils ne seraient pas chez eux, ce qui évidemment est absurde.
Professeur, vous dites qu'avec la colonisation, les gens ont été fixés dans leur territoire. Est-ce qu'on peut considérer des moments tels que la zaïrianisation ont exacerbé pratiquement cette question des originaires et non originaires, par exemple ?
Bon, c'est vrai qu'au moment de la zaïrianisation, on a procédé à deux échelles. D'abord, on a donné des biens aux gens qui faisaient partie du réseau politique proche du pouvoir de la Deuxième République. Donc ce sont des copains qui se sont partagés un certain nombre de choses. Et puis la deuxième dimension, en effet, on a donné aux originaires, entre guillemets, d'une région, les biens qui étaient dans cette région en disant « vous êtes les mieux placés pour les gérer ». Mais qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que dans la majorité des cas, les enfants de la région se sont contentés de dilapider les biens qui leur ont été confiés, et beaucoup de ces entreprises, de ces plantations sont tombées en ruine au bout de quelques années. Les exceptions sont vraiment très 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 rares. Je crois que Arsène Mouaka peut en citer quelques-uns au Nord Kivu, moi j'en connais quelques-uns dans le Bas-Congo et à Kinshasa, mais presque partout ailleurs, les originaires se sont montrés incompétents et parfois aussi corrompus, sinon plus corrompus que les non-originaires. Parce qu'on se dit toujours, mes frères vont me pardonner, même si je fais mal le boulot. Hein? Et donc tout ça, je pense, a été une expérience douloureuse dont nous devons nous souvenir, comme l'expulsion des Balouba du Katanga, comme toute une série d'autres choses dont nous continuons à souffrir aujourd'hui.
Merci, professeur Eli Kambokolo. Je vous redonne la parole dans le prochain tour de table. Professeur Arsène Mouaka, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa et député national de l'opposition. Vous avez également pris part à ce colloque. Professeur, comment vous l'avez accueilli ?
Oui, je crois qu'il était temps qu'on parle de ces tabous, puisque pendant très longtemps, ce qu'on a appelé la géopolitique de la transition mobutiste n'a pas été abordé. Les intellectuels se sont résignés en face de ces phénomènes, au point où jusqu'à aujourd'hui ils continuent à couver et parfois à menacer de façon directe l'intégrité territoriale. Et donc il était temps qu'on puisse en parler publiquement et qu'on puisse réfléchir, mettre sur la table pour que la décentralisation qui est en cours ne puisse pas en souffrir.
Alors pour vous, professeur, quels sont les moments forts où cette question dans l'histoire de la RDC, où cette question des originaires et non originaires a réjailli au grand jour?
Oui, je crois que d'abord, au lendemain de notre indépendance, il y a eu ces problèmes des uns contre les autres, il y a eu une sorte de provincialisme qui a été manifesté, il y a eu des partis politiques qui s'est délimité au contour de certains espaces territoriaux, de partis des provinces, des partis des ethnies, ainsi de suite. Mais le phénomène a réjailli dans la transition mobutiste où pratiquement on a parlé de la territoriale des originaires, puisque sous Mobutu il y a eu un brassage qui a permis l'émergence d'un certain nombre de personnes qui ont circulé à travers le pays. Et donc vous verrez qu'il y a des Congolais qui parlent toutes les langues nationales du pays, tout simplement parfois leurs pères ont été des fonctionnaires ou eux-mêmes ont été des fonctionnaires qui ont circulé à travers le pays. Et donc on s'est retrouvé sous la période de Mobutu dans un brassage qui commençait et l'idée de la nation commençait, puisque l'unité nationale était un des objectifs politiques du mobutisme. On voulait absolument forger une nation. Mais bon, la transition a permis à ce que l'on puisse revenir à ce phénomène. C'est le phénomène des géopolitiques qui a commencé à la conférence nationale et qui s'est étendu sur la territoriale. Et aujourd'hui, nous sommes à plein ce phénomène où pratiquement, pour être élu à un endroit ou à un autre, la règle, c'est qu'il faut absolument être de l'ethnie de ce coin. Et donc, même dans certaines villes, et dans certaines entités qui sont en fait pluralistes, eh bien, on trouve une tendance ethniciste inacceptable, de telle sorte qu'aujourd'hui, il faut qu'on en parle et qu'on dise au gouvernement qu'il est temps de faire de l'unité nationale, du brassage et de l'intégration nationale un problème des politiques de notre pays.
Nous allons prendre pour vous, professeur Arsène Mouaka, cette réaction qui nous vient de Bounia en province orientale.
Je suis maître David Mambo de Bounia en province orientale. La problématique des originaires et des non-originaires est une problématique à laquelle le politique congolais doit chercher à répondre sans désemparer, puisque ce sont eux qui encouragent le népotisme dans tous les secteurs de la vie nationale, comme si nous étions encore sous la Deuxième République. Détrompons-nous, tant qu'il y aura l'hégémonie des non-originaires sur les originaires, notamment dans les entreprise publique, et tant qu'il n'y aura pas une politique systématique de la mise en œuvre de la décentralisation, ce problème subsistera.
Professeur, l'homme politique congolais, le politicien congolais, serait-il le seul responsable des dérives de cette question des originaires et des non-originaires?
Bon, je crois qu'il est l'acteur principal, mais il n'est pas le seul, puisque ces phénomènes traversent même les églises. Je crois que Maître Mambo David, à partir de Bounia, vient de vous dire que l'un des problèmes, ce sont les grandes entreprises publiques. On voit par exemple les Kilomoto, où on voit pratiquement des originaires de l'Ituri dire que l'entreprise se retrouve chez nous, c'est l'or de la terre de nos ancêtres, et donc il est très logique que nous puissions être, si pas le plus nombreux, sinon tout simplement les seuls, non seulement à diriger, mais aussi à travailler dans cette entreprise nationale. Et donc c'est là la problématique justement. Doit-on privilégier les ressortissants de telle ou telle province dans des entreprises publiques de ce genre ou privilégier la compétence? Et donc le vrai débat c'est celui-là. Parce que s'il y a des originaires de telle ou telle autre province qui sont compétents et qui peuvent concourir et qui satisfont au concours, je crois que ça ne posera pas de problème. Mais ici le problème c'est aussi celui de la justice sociale, c'est-à-dire c'est là que le politicien devient prioritairement grand responsable de ces phénomènes, d'autant plus que dans l'engagement au sein des entreprises, il faut avoir tel parapluie, tel autre, et finalement on fout n'importe qui à n'importe quelle place et au détriment de tous les équilibres. Et donc je me dis c'est un débat entre cet équilibre territorial et pratiquement la compétence. On doit choisir, on doit faire un choix, et je semble croire que ces colloques a plaidé pour la compétence. Nous devons privilégier la compétence. Chacun doit s'exprimer non pas au nom de l'ethnie, non pas au nom du coin, mais il doit s'exprimer au nom de la compétence.
Professeur, on se souvient quand même que dans ce pays, il y a un moment où pour accéder à l'université, il y avait également un problème des quotas.
Oui, en fait, c'est cela pratiquement le paradoxe. Quand vous lisez les ouvrages du professeur Kabuya qui parle des paradoxes, il en a observé au même moment qu'on avait un régime qui prônait le nationalisme et l'unité nationale, au même moment, il y avait en dessous des pratiques qui frisaient pratiquement la tribalisation, l'ethnicisation pratiquement de la vie nationale. Et donc, là aussi, c'est un problème, puisque au même moment qu'on plantait les germes de l'unité nationale, on procédait aussi par de l'autre côté, ce qui n'allait pas. Et donc, je semble que dans une université, pour être inscrit, il ne faut pas être de telle ou telle autre province, mais il faut être capable d'embrasser l'université. S'il y a des critères comme le pourcentage, ainsi de suite, je semble croire qu'il était normal que l'on puisse y revenir. Mais je crois que les réflexions, même au sein de la conférence, ont tourné autour des universités que nous avons aujourd'hui dans nos provinces. Il y a pratiquement des universités de villages, des territoires, des tribus, en fait des ethnies, de provinces, à tel qu'on se demande, faut-il inscrire dans une telle université uniquement des ressortissants de tel coin, ou faut-il y mettre des quotas pour dire, vous les autres ressortissants de cette province, vous devez aller vous brasser dans la province voisine et n'inscrire par exemple que 30%, et donc faire bouger les universités, des mécanismes de ce genre qui peuvent procéder par des quotas, non pas pour perpétuer ces phénomènes, mais pour essayer de pousser les gens à se brasser.
Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, est-ce que vous nous suivez? Vous êtes en ligne?
Oui.
Vous êtes analyste et professeur à l'Université catholique au Congo. De votre point de vue d'analyste, comment vous avez perçu l'organisation de ce colloque?
Je pense que le problème tel qu'il est posé n'a pas été, dès le départ, bien circonscrit. Et surtout, il n'a pas tenu compte des réalités sociologiques qui déterminent toute politique. Eh bien voilà, nous sommes dans un pays où vous avez aujourd'hui à peu près 400 ethnies, 400 tribus. Et ces tribus ont toujours existé depuis que les Belges ont donc décidé de les Européens à Berlin ont décidé de créer la République démocratique du Congo. C'est une diversité ethnique qui va de pair avec des particularités culturelles, avec certaines spécificités sur le plan, par exemple, des métiers. Vous avez des tribus d'éleveurs, des tribus d'agriculteurs, des tribus de chasseurs. Vous avez donc une panoplie de tribus, d'ethnies qui ont été intégrées dans l'ensemble qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique démocratique du Congo. C'est un fait, il faut d'abord en prendre acte. Et ce fait n'est pas en soi mauvais. Pour moi, l'altérité et la diversité, ce n'est pas un danger, ce n'est pas un risque, c'est d'abord une richesse. Et cette richesse, on aurait pu la capitaliser en commençant par permettre à chacune de ces ethnies de développer ce qu'elle avait comme valeur culturelle spécifique, en permettant à chacune de ces tribus-là de ne pas abandonner leur tradition, et surtout en évitant que, par exemple, les langues de ces tribus-là disparaissent. Cette diversité-là est une richesse qu'on aurait pu exploiter, qu'on aurait pu mettre en valeur et qui pourrait contribuer à l'enrichissement de l'ensemble. Parce que, comme je l'ai dit, l'altérité et la diversité, ce n'est pas un danger, c'est même une chance, c'est une richesse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cela a fonctionné tant que les Congolais n'avaient pas droit à la participation au gouvernement du pays. Donc, tant que les Congolais n'avaient pas de droit d'être des politiciens, comme on dirait. Et dès lors qu'on a commencé à politiser, à donner aux Congolais la possibilité de commencer à chercher à conquérir le pouvoir, comme ils n'avaient pas de culture politique, qu'ils n'avaient pas de culture extra-ethnique, si je peux parler comme ça, eh bien, la seule chose à laquelle ils pouvaient se raccrocher, c'est l'identité tribale. Et c'est ainsi que les politiciens commençaient à exploiter cette réalité-là comme élément fédérateur, comme base de l'unité ou du rassemblement de ceux qui devaient venir derrière eux dans la lutte pour la conquête du pouvoir. C'est avec la politique que ce problème de l'ethnie a commencé à se poser de manière dramatique. Vous savez qu'avant l'indépendance, il y avait ce qu'on appelait les centres extra-coutumiers. Moi, je suis né dans un centre extra-coutumier, où j'ai, dès mon jeune âge, accosté, abordé, vécu avec des gens qui n'étaient pas de ma tribu. Il ne se posait absolument aucun problème. Au collège même, nous organisions ce qu'on appelait des soirées culturelles, où les groupes ethniques présentaient leurs danses, leurs valeurs culturelles, et ça s'est passé sans accroc. Et c'était véritablement une richesse qui a malheureusement été nivelée à partir du moment où on a instauré l'animation politique où tout le monde a appris à danser de la même façon et à chanter de la même manière. Mais jusque-là, les étrangers qui venaient, dont les accueillait selon la coutume, la plupart de nos tribus ont une coutume, la tradition de l'hospitalité. L'étranger, c'était quelqu'un qu'il fallait recevoir avec honneur, qu'il fallait recevoir avec amabilité, à qui il fallait réserver tous les honneurs. Parce que on savait que on bougeait et que si on est hospitalier, on peut bénéficier de l'hospitalité quand on se promène, on bouge soi-même. C'est qu'à partir du moment où les Congolais ont commencé à pouvoir à lutter, à créer des partis politiques, commencer à compétir, à rivaliser pour conquérir le pouvoir, c'est à ce moment-là que les politiciens, ne pouvant pas faire valoir un projet de société, parce que la plupart de nos Congolais ne sont pas capables de comprendre ce que c'est qu'un projet de société. Monsieur Leur niveau intellectuel ne le permet pas. Alors ils ont trouvé que l'élément fédérateur, c'était donc la tribu. Et c'est ce qui existe encore aujourd'hui. Et quand quelqu'un fait une tribu, une de sa tribu, la référence pour l'appartenance à son parti politique, il se trompe joliment. Un parti politique ne se définit pas par l'appartenance à une tribu, mais par la participation, ou la convergence autour d'un projet de société. Et ce n'est pas la même chose. Mais... Alors, je crois que effectivement, aujourd'hui, ce problème-là devrait être envisagé dans le cadre de la conception, de la vision que nous devons nous faire de l'unité nationale ou de la cohésion nationale, qui ne doit pas être uniformité, qui ne doit pas être une forme de, qui ne doit pas viser à brimer les différences, les altérités, les richesses culturelles, mais plutôt à les mettre ensemble et à les faire coexister de manière harmonieuse.
Merci.
Et j'ai vu pendant le mobutisme, il y a des gens qui sont allés travailler en dehors de leur province et qui ont fait mouche, comme monsieur celui qui a été voté à Goma,
monsieur
comment il s'appelle là,
l'honorable Conde Villa,
l'honorable
Conde Villa
Bakongo là. Ben, il a bien travaillé à Goma, les gens l'ont adopté parce qu'il avait bien travaillé.
Merci, Monsieur l'abbé. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Elikia Mbokolo, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Katanga.
Professeur Ignace Ndala, depuis Kolwezi au Katanga. Tout en saluant l'initiative de ce colloque, je voudrais que les universités soient toujours associées aux campagnes de sensibilisation sur des matières où le politique ne semble pas toujours avoir toute l'expertise. Je prends l'exemple de la décentralisation. En outre, que l'État réglemente le fonctionnement des regroupements socioculturels dans notre pays.
Professeur Elikia Mbokolo, un mot sur cette histoire de regroupements socioculturels qui sont devenus pratiquement, qui servent actuellement des bases politiques aux politiciens.
Oui, ce sont des affaires un peu compliquées quand on les analyse sur le fond. Moi, je crois que ces groupes de bases, quel que soit le nom qu'on leur donne, ne fonctionnent pas comme ça librement comme des mouches en l'air. Ils fonctionnent dans le cadre d'un État qui répond ou ne répond pas à ce que les gens attendent de lui. Il y a une chose qui manque dans notre pays, c'est, bon, ne parlons pas de la liberté, c'est la question de l'égalité de droit et ce que cela suppose pour les citoyens, la question de la solidarité. Notre État, on le sait, c'était vrai de l'État colonial d'abord, hein, et c'est vrai de notre État indépendant, est absent sur le front de la solidarité nationale. Donc ça veut dire que les services sociaux que les gens qui travaillent et qui vivent dans ce pays sont en droit d'attendre des pouvoirs publics ne vient pas. Donc à défaut de ce référent universel qu'est l'État, les gens imaginent que le parent ethnique est plus proche que l'État et il peut rendre un certain nombre de ses services. Les associations dites tribales, moi aussi je les ai connues, à l'époque c'était pour danser, organiser des luttes traditionnelles, etc. On voyait d'ailleurs que quand on mettait ensemble les Bakongo par exemple, ici à Kinshasa, on voyait que le référent ethnique Congo n'existait pas, puisque entre les Bakongo, il y en avait qui parlaient Kindibu, qui parlaient Kintandu, qui parlaient Kisolongo, etc. Donc la réalité, l'identité locale est une réalité effective, mais il ne faut pas le voir comme quelque chose qui existe de tout temps et qui va exister de tout temps. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en réalité. Pour nous qui vivons à Kinshasa, nous savons par exemple que le mariage Yakato-Vanda, qui aujourd'hui se développe dans la plus grande partie de la jeunesse kinoise, c'est un mariage où ce sont plutôt les relations de quartier qui importent, les relations à l'intérieur des églises qui importent. Hein, si on prie ensemble dans la même église, on n'est pas de l'Est, du Nord ou du Sud, on est les frères en Jésus à l'intérieur d'une église. Donc l'identité des gens, c'est ce que j'avais défendu, est toujours une identité multiple. Donc il n'y a aucune raison de privilégier telle identité par rapport à d'autres, et de nous ramener systématiquement à l'identité ethnique ou tribale. Ce n'est pas vrai que tous les gens se sentent d'abord de telle tribu ou de tel état. Selon les lieux, ils se sentent ceci ou cela, homme ou femme, intellectuel ou travailleur manuel, etc. Donc, c'est cette pluralité que nous devons utiliser pour aller de l'avant. L'auditeur qui vient de parler a évoqué la question de l'université. Je crois que l'un des drames de notre pays, c'est que le politique fonctionne en vase clos, l'État finance les universités qui font du travail intéressant, mais l'État n'utilise pas ce travail. Et donc on a entendu par exemple au cours de ces trois journées de colloque, quelqu'un, je ne sais plus si c'était un député ou un journaliste, dire que compte tenu de la diversité tribale, il faudrait avoir une présidence rotative qui pourrait tous les 5 ans élire un président dans telle ou telle tribu. Si nous avons 400 tribus, certains disent 430 ou 450, et que chaque tribu doit donner 5 ans de mandat au président de la République, il faudra 2000 ans pour que l'ensemble des groupes ethniques du pays ait satisfaction. Donc ce n'est pas là que ça se passe. Ça se passe, je pense, il faut reconnaître ces identités locales, notamment la question de la langue est une question importante, et il faut faire en sorte que les solidarités nationales existent effectivement. Moi, je pense que si on a des chemins de fer, on a des équipes de basket, on fait que dans toutes les écoles, on parle 2 ou 3 langues du pays, on verra que très rapidement, la convivialité va se faire entre nous assez facilement. Merci. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Si le Congo veut devenir une puissance en Afrique, elle ne peut pas se réduire à une république de Bantoustan. Elle doit être une république de citoyens qui appartiennent à une nation, qui ont chacun peut-être leur identité, mais qui se reconnaissent d'abord comme citoyens de la République démocratique du Congo.
Merci professeur Eli Kiambokolo. Professeur Mwaka, très rapidement, avant que l'on aborde la deuxième partie de cette émission qui concerne les recommandations, professeur, l'abbé Mugaruka disait tout à l'heure que l'altérité, la diversité culturelle, c'est une richesse, c'est quelque chose de bien, mais tout a dérapé lorsqu'on a politisé les choses. Peut-on considérer que l'État a joué un rôle néfaste dans ce sens?
Oui, je l'ai dit quand même pour dire que l'État est animé par des individus et donc c'est vers ces individus qu'il faut aller puisque le plus souvent, quand nous disons que l'État est fautif, nous oublions que derrière ce qu'on appelle État, il y a des hommes et ce sont des Congolais, et généralement des politiques. Et donc, je voudrais dire qu'il y a réellement un problème dès lors que l'OP vous présentait un programme de gouvernement et on oublie de faire de l'unité nationale, de l'intégration nationale, une des préoccupations, et avec pratiquement un programme clair. J'ai vu dans l'actuel programme du gouvernement le concept de nouvelle citoyenneté. On aurait bien voulu comprendre ça signifie quoi et ça va se matérialiser comment. Maintenant que nous sommes à une année du mandat, on a consommé une année, on est avancé de combien de pas, quelles sont les actions concrètes que l'on a eu à mener. C'est peut-être là que se situe le vrai problème. Mais je voulais quand même placer un mot sur ce qui a été dit par l'abbé Mugaruka.
Je vous en prie.
Qui a dit qu'il y avait des ethnies d'agriculteurs, d'éleveurs, des chasseurs, pour dire justement, c'est aussi ça le problème. Dès lors qu'on considère qu'il y a des ethnies d'agriculteurs, d'éleveurs, et ainsi de suite, alors
d'esclaves
que,
et la, de
ouais,
libres,
exactement. Là aussi commence le problème. C'est en fait l'imagination même de l'identité qui pose problème. Là, je vois un théoricien Bénédicte qui disait pratiquement que la plupart des communautés que nous vivons sont des communautés imaginées. On s'imagine un individu en train d'être éleveur, même quand il a réussi dans un domaine comme celui du journalisme, puisqu'on lui a assigné l'élevage, et donc il doit recourir à l'élevage. Absolument, ça crée des problèmes. Tu as bien réussi dans le journalisme, tu peux continuer au niveau national, plutôt que de rentrer, déranger les gens au village et avec des prises de terre qui vont créer des problèmes tout simplement, puisque dans ton imagination, tu ne peux te réaliser comme appartenant à telle communauté que si tu pratiques l'agriculture, l'élevage, la chasse. Et encore que dans l'histoire, il n'y a aucun peuple qui n'a été que chasseur, qu'agriculteur, qu'éleveur. En fait, on pratique les deux, même s'il y a une prédominance d'une des activités. Et je voulais conclure en disant qu'il y a justement de ces assignations qui ont évolué après la colonisation, parce que finalement, il y a eu des ethnies de commerçants, des ethnies de militaires, et ainsi de telle sorte que si tu quittes l'activité qui est assignée à ton ethnie ou à ton origine à toi, tu crées un problème. Et donc, là, on se bat entre originaires, puisque tu es allé dans une profession qui n'est pas la tienne. Et là, c'est anormal dans ces pays.
Merci, professeur. Le colloque tenu la semaine dernière à Kinshasa sur la problématique des originaires et des non-originaires a formulé à l'endroit du gouvernement, du Parlement et de la société civile une vingtaine de recommandations, notamment la mise à la disposition du pays d'une carte géographique et d'une carte d'identité et aussi la mise en place de certaines institutions, surtout dans le secteur de la justice. Le professeur Obotela Noël Rachidi, président de ce colloque, répond au micro de Guy Maté.
Une première recommandation, c'était parachever la mise en place de la décentralisation. Une autre recommandation adressée encore aux institutions, c'est que les personnels recrutés au sein de la fonction publique ou bien de l'administration publique les soient sur la base d'un concours. Plus question de népotisme, de clientélisme, ainsi de suite, pour mettre en place quelqu'un. Troisième recommandation, mettre en place les différentes institutions prévues par la Constitution. Il y a encore des institutions qui ne sont pas encore mises en place, surtout au niveau de la justice et à d'autres niveaux encore. Une quatrième recommandation, c'est de mettre à la disposition du pays la carte géographique et la carte d'identité. Une autre recommandation que je considère comme une recommandation importante, c'est d'essayer de diminuer les inégalités et favoriser l'intégration, c'est de rendre obligatoire la connaissance et la maîtrise des quatre langues nationales. Une dernière, c'est de mettre fin aux inégalités politiques, économiques et sociales dans le pays.
Professeur Arsène Mouaka, avant que je ne donne la parole à l'abbé Richard Mugaruka, l'abbé Mugaruka a finalement dit que ce colloque mettait à la lumière le problème de l'unité nationale. Que devons-nous faire de l'unité nationale? En ce moment, on parle de cohésion nationale, de débat, dialogue national. Professeur, ces recommandations sont-elles efficaces?
Naturellement, nous suggérons aux politiques, il peut prendre ou il ne peut pas prendre, mais je semble croire que cette conférence s'est tenue à un moment bien indiqué où le gouvernement, par l'accord cadre d'Addis Abeba, venait de s'engager dans ce sixième engagement de tout faire pour travailler pour la réconciliation nationale et essayer de voir dans quelle mesure faire dialoguer la nation. Et donc, je crois que dans ce cadre, il est bien indiqué que ces recommandations s'orientent tout droit vers le gouvernement pour que le gouvernement puisse voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est en fait précieux à prendre pour cet État. Sinon, je semble croire qu'à tant qu'universitaire, nous plaidons pour que le gouvernement prenne en charge cette question d'originaire et non originaire qui risque de faire échouer tout notre processus de démocratisation et faire de la décentralisation en fait le pire des choix. Et donc, on voudrait éviter et prévenir.
Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, nous prenons pour vous cette réaction qui vient de Goma en Nord-Kivu.
Paulin Moindo Mupika, à partir de Goma, au Nord Kivu. Moi, je trouve que il est plus juste de réunifier les provinces au lieu de faire la décentralisation, puisque la décentralisation va plus amener la division, c'est-à-dire le mot non originaire sera plus accentué, il aura plus du poids et le pays sera plus divisé. Ce serait plus juste d'unifier les régions au lieu de les diviser.
Professeur, parmi les recommandations, les participants ont notamment demandé au gouvernement de parachever la mise en place de la décentralisation et notre auditeur Paulin Mupika que vous venez de suivre lui pense que c'est plutôt dangereux. Quelle est votre analyse? Monsieur l'abbé Mugaruka?
Oui, vous avez demandé quoi exactement?
Parce voilà, je disais que l'auditeur, que les participants au colloque ont notamment recommandé au gouvernement de parachever la mise en place de la décentralisation. Mais il y a l'auditeur que nous venons de suivre de Goma, qui pense qu'il faudrait plutôt, et lui il est pour l'unification du pays au lieu de la décentralisation, qui risque d'amplifier les divisions.
Non, je suis d'accord avec lui pour dire que tant que l'on n'aura pas consolidé l'unité nationale, il ne sera pas possible de prendre le risque de décentraliser parce que, bien, on va donner à toutes les forces centrifuges, y compris le tribalisme, tout ce que vous dénoncez comme exclusion, la possibilité de se développer, de s'exprimer davantage. Je pense qu'au niveau où on en est aujourd'hui, il faut sans doute renforcer l'unité du pays. Mais je ne conçois pas cette unité comme une uniformité, je le répète. Parce que dans les centres urbains, il y a effectivement un brassage qui s'est fait. Dans tous les centres urbains, à quelques provinces qu'ils appartiennent, vous avez plusieurs tribus, et de la province et d'ailleurs, qui se côtoient et qui vivent plus ou moins harmonieusement. Nous n'avons pas, sauf de temps en temps, lors de dérapages qu'on a cités, comme par exemple l'exclusion des... la chasse aux Kassaïens, etc., comme le problème qui se pose au Nord Kivu, parfois tribal, mais d'une manière générale, dans les centres urbains, le brassage est un fait réel, sociologiquement observable, mais il y a encore une bonne partie de la population congolaise qui vit en milieu rural et qui a gardé les traditions ancestrales, qui a gardé les langues tribales, qui a gardé les traditions tribales. Je pense qu'il y a moyen de faire une véritable unité sans brimer les diversités, sans brimer les richesses culturelles de chaque groupe. C'est là qu'il faut aller. Parce que si vous brimez les différences, vous allez créer un autre conflit. Vous allez créer le conflit des groupes dominants, et cela n'est pas bon pour la démocratie.
Monsieur l'abbé, il est recommandé, les participants ont aussi recommandé au Parlement de régler par une loi constitutionnelle ou ordinaire la représentation de différentes ethnies dans l'occupation des charges de l'État. N'est-ce pas dangereux?
Je pense que l'affaire, la politique du pays n'a rien à voir avec la tribu en tant que telle. Les tribus sont des réalités sociologiques et qui comportent des valeurs culturelles qu'il faut pour moi sauvegarder, qu'il faut même protéger. Mais lorsqu'on parle du pays, il faut sortir de la tribu. L'avenir du Congo n'est pas dans les tribus et dans les villages. L'avenir du Congo est dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, et c'est à cette condition-là que nous pouvons entrer dans la modernité. Je suis d'accord avec vous. Seulement, cette modernité-là n'est pas incompatible avec la sauvegarde et le développement des valeurs positives de la tradition ancestrale. Voilà tout ce que j'ai dit. Et une modernité qui ne tient pas compte de ces valeurs ancestrales, valeurs identitaires et culturelles, risque de faire que nous allons nous diluer dans un monde où nous n'avons plus d'existence spécifique. C'est une question d'être, c'est une question d'identité, c'est très important. Pour pouvoir s'enrichir des apports des autres et entrer dans la modernité, il faut d'abord être soi-même et cultiver son identité, ses valeurs propres. Mais cette identité, ces valeurs propres ne sont plus dans le village. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, cette identité nouvelle doit tenir compte de l'ensemble de la République, qui ne sera véritablement riche et forte que si elle intègre pour moi les valeurs traditionnelles. Et c'est possible.
Merci, monsieur l'abbé. Je rappelle entre-temps qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Professeur Edikam Bokolo, une autre recommandation, c'est rendre obligatoire la connaissance et la maîtrise des 4 langues nationales, Kikongo, Lingala, Swahili et Chiluba. Comment équilibrer cet aspect, professeur, quand l'abbé Mugaruk a dit en même temps qu'il faut tenir compte de ses valeurs, il faut tenir compte de son identité?
Oui, je crois que la proposition sur les 4 langues nationales est très importante. Elle visait en particulier les personnes, les hommes ou les femmes, qui se portent candidats à des mandats administratifs, financiers ou autres à l'échelle de la nation. Je pense que c'est vraiment une question importante. L'année dernière, nous avons célébré le sommet de la francophonie à Kinshasa. Peut-être qu'on n'en a pas profité pour évoquer très clairement la question de la langue. Le français, c'est la langue de l'État, c'est la langue officielle de notre pays, mais la langue dans laquelle les gens vivent, ce sont les grandes langues nationales ou, je suis d'accord avec M. l'abbé, les langues, alors appelons-les locales, pour faire vite. Donc cette pluralité des langues est quelque chose de tout à fait important. Quand vous regardez la plupart des Congolais aujourd'hui, aussi bien dans les villes que dans les zones rurales, chaque Congolais parle 2-3 langues facilement. Je connais des gens qui parlent le Lingala, le Kikongo, le Chiluba et le Swahili sans avoir jamais voyagé vers les territoires de l'Est. Et quelques-uns parlent des langues vernaculaires, donc des langues liées justement à ces groupes ethniques. Je crois que c'est absolument important. Merci, et à mon avis, le système d'enseignement que nous avons, qui oblige les gamins et les gamines à apprendre le français dès l'entrée à l'école, est une très mauvaise chose. Donc, on peut passer par le détour de ces langues nationales ou locales. Merci. Pour avoir demain des citoyens qui maîtriseront parfaitement le français ou l'anglais. Merci, et aussi professeur. Les langues du pays, et ça facilitera effectivement le brassage.
Merci professeur. Je considère cela aussi comme votre conclusion parce que l'émission va toucher à sa fin. Professeur Mwaka, il faut réformer le système éducatif congolais, disait le prof Edikam Bokolo en terminant son propos.
Absolument. Je crois que l'école est un espace de socialisation par excellence où c'est que le pays, où en fait le gouvernement veut que nous devenions transit. C'est par l'école qu'on doit faire transiter la vision de l'État et même de notre gouvernement sur la question de l'unité nationale et les combats contre toutes ces velléités originaires, non originaires. Et donc, je semble croire qu'il faut procéder par l'école. Et je suis de cet avis.
En parlant de l'éducation, professeur, il y a une autre recommandation qui dit réformer les cours d'éducation civique et politique en mettant l'accent sur l'apprentissage de l'hymne national. On se souvient qu'il y a peu de temps, il y avait une vaste campagne en faveur de l'hymne national, mais qui s'est très vite terminée.
Malheureusement, c'était l'initiative d'un individu, c'était la DG Kipolongo Mukambiloa, et donc je suis désolé que la nouvelle citoyenneté croit qu'elle doit se faire en dehors, par exemple, de ces questions d'hymne national, et même refaire le cours d'éducation à la citoyenneté. Et donc, je semble croire que c'est important, tant au niveau de l'école primaire, secondaire, et même au niveau des universités.
Mettre à la disposition du pays la carte géographique et la carte d'identité, professeur, il est vrai que plusieurs Congolais ne maîtrisent même pas leur géographie.
Il n'y a pas que des Congolais. D'abord, à commencer par les dirigeants. Je crois que ceux qui sont ministres ne maîtrisent pas nos bornes, ils ne maîtrisent pas nos rivières, et ils croient que même nos rivières, après 50 ans, ne se déplacent pas. Et donc, nous ne maîtrisons même pas nos frontières. C'est pourquoi nous plaidons que nous puissions maîtriser nos frontières et que nous soyons des citoyens pratiquement identifiés. Comment voulez-vous que nous manquions juste un bout de papier qui nous identifie par rapport à notre nation? Je crois que c'est ridicule. Et donc, nous plaidons pour cela, pour que, en fait, nous puissions réellement nous sentir congolais et développer ces sentiments.
Merci, professeur. Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, il faut doter rapidement les Congolais d'une carte d'identité en guise de conclusion.
Absolument. Il faut une carte d'identité. Il faut qu'on puisse savoir. Il faut d'abord procéder au recensement de la population et aussi à l'identification des nationaux. Ça sera le premier niveau, si vous voulez, de la maîtrise de la population et donc aussi de la planification du développement, parce qu'il n'est pas moyen, il n'est pas possible de planifier un quelconque développement si on ne maîtrise pas les données démographiques, les données démographiques de base. Ça sera aussi une des façons de pouvoir mieux sauvegarder la souveraineté nationale. Merci. Et l'intégrité du territoire, en sachant qui est congolais et qui ne l'est pas, non pas pour chasser les étrangers, mais pour justement mieux gérer cette donne-là et gérer aussi l'immigration.
Merci Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, c'est par vous que nous terminons cette émission. Merci Monsieur d'y avoir participé. Merci à vous chers auditeurs internautes de nous avoir suivis. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.